Bonjour à toutes et tous. Toujours un plaisir d'être parmi vous et modestement d'essayer de transmettre ce que le Seigneur a mis sur mon cœur à travers la lecture, la méditation de sa parole. Et je vais commencer par un petit témoignage, simplement pour dire que je suis quelqu'un qui aime beaucoup marcher, qui aime beaucoup randonner dans la nature, dans la montagne, près de la mer. Et il m'est arrivé plusieurs fois lors de mes randonnées de voir quelque chose qui ressemble à ça. Tu peux passer la suivante, voilà. Des arbres qui ont cette forme-là. Au lieu de pousser bien droit, hein, normalement un arbre, ça pousse bien droit, et bien celui-ci, il pousse presque horizontalement. Comme s'il y avait une force invisible qui l'obligeait à se pencher. Là, est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est facile, ça. Hein. Le vent, ouais, exactement. Le vent dominant empêche l'arbre de pousser parce que le vent souffle tellement fréquemment et toujours dans la même direction que, au fil des années, cet arbre il est tordu d'une certaine manière. C'est assez impressionnant. Et ce matin, le texte biblique qu'on va lire dans l'évangile de Matthieu nous parle aussi d'une force qui a des effets considérables, mais qu'on a du mal à observer en action. Alors on va lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, les versets 1 à 12. Et je vais lire dans la version, dans la traduction Semeur. Je vous laisse le temps si vous voulez le suivre aussi sur votre téléphone ou dans votre Bible, sinon c'est affiché derrière moi. Quelques pharisiens et sadducéens abordèrent Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer un signe miraculeux venant du ciel. Il leur répondit, au crépuscule, vous dites bien, demain il fera beau car le ciel est rouge. Ou bien à l'aurore, aujourd'hui on aura de l'orage car le ciel est rouge sombre. Ainsi, vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel, mais vous êtes incapable de reconnaître les signes de notre temps. Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux, un signe. Il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Là-dessus, il les quitta et partit de là. En passant de l'autre côté du lac, les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Jésus leur dit, « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples discutaient entre eux, et ils disent cela parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit, « Pourquoi discutez-vous entre vous parce que vous n'avez pas de pain ? Ah, votre foi est encore bien petite. Vous n'avez donc pas encore compris ? Ne vous souvenez-vous pas des 5 pains distribués aux 5 000 hommes ? Et combien de paniers vous avez remplis avec les restes, et des 7 pains distribués aux 4 000 hommes, et du nombre de corbeilles que vous avez emportées? Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que ce n'est pas de pain quand je vous disais « gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens » Alors, ils comprirent qu'il leur avait dit de se garder non pas du levain que l'on met dans le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Voilà un dialogue un petit peu surprenant entre Jésus et ses disciples. Il y a un quiproquo. Jésus parle du levain comme d'une image, d'une manière imagée, et les disciples, ils comprennent ça comme étant littéral. Ah, le pain, on n'a pas emmené à manger, on peut imaginer, ah, André, c'était pas toi que tu dis, ah non, Barthélémy, j'en avais demandé, ah, on a oublié le pain. Alors j'ouvre ici une petite parenthèse, parce que c'est vraiment intéressant, là on a en direct une erreur d'interprétation entre un sens imagé, que Jésus il utilise une image, et les disciples comprennent quelque chose de littéral. Donc ça c'est aussi une petite mise en garde dans nos lectures de la Bible, quand on confond les deux, une image qu'on prend au sens propre ou inversement, on se fourvoie, on ne va pas dans la bonne direction. Je termine la parenthèse. Jésus utilise une image, l'image du levain, pour avertir, pour mettre en garde ses disciples. Et la réponse nous est donnée dans le dernier verset, c'est une image de l'enseignement qui est donné par les pharisiens et les sadducéens. Et vous l'avez compris, hein, le vent qui oblige l'arbre à pousser, c'est une force un peu invisible. Alors on peut, forcément, quand le vent souffle, on le sent, on ne le voit pas. Et le levain, c'est aussi quelque chose qui a une force, un potentiel, qui a des actions, des effets considérables, mais souvent, son action en elle-même, on ne la voit pas. Et je vous propose de méditer ce matin sur cet avertissement imagé que Jésus adresse à ses disciples. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Avec trois questions qu'on va voir ensemble. D'abord, qu'est-ce que ça implique, l'image du levain ? Pourquoi est-ce que Jésus utilise cette image du levain utilisé pour faire du pain ? Deuxième question, qu'est-ce que représente ce levain des pharisiens et des sadducéens ? Aujourd'hui, il n'y a plus de pharisiens et de sadducéens. Ou alors, c'est que mes infos ne sont pas à jour, mais ouais, c'était des groupes qui existaient il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors, est-ce que cet avertissement nous concerne ou est-ce que c'est obsolète ? Ça fait partie des choses qui étaient valables à l'époque de Jésus, mais nous, ça ne nous concerne plus. Je vous dis tout de suite la réponse, c'est ça nous concerne toujours. Et dernière question, comment dans notre vie on peut se garder du levain des pharisiens et des sadducéens ? Comment on peut s'en tenir éloigné ? Alors le levain, une force invisible qui a de grands effets. Déjà un peu plus tôt dans l'évangile de Matthieu, Jésus a utilisé l'image du levain pour parler d'une autre réalité. On va afficher le verset. C'est dans le chapitre 13, au verset 33. Il, donc Jésus, leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine et à la fin, toute la pâte lève. Je pense que Jésus aimait bien manger du pain. En fait, le pain, c'est l'aliment essentiel dans la société occidentale, mais aussi au Moyen-Orient. Hein, si vous êtes déjà allé, le pain n'est pas tout à fait, il n'y a pas la baguette, mais c'est d'autres formes de pain. Le pain, c'est un élément essentiel. Et dans le pain, le levain, c'est ce qui va transformer le produit de départ. Alors, pour parler de levain, qui est le mieux placé pour parler de levain ? Un boulanger. Et ça tombe bien. Dans notre église, on a un boulanger, Teddy Hébert. Alors, il n'est pas là, il y a ses enfants qui sont en bas, il y a Bénédicte qui est là. Mais je suis allé le voir ce matin pour parler avec lui du levain. Et on a fait mieux que ça. Voilà. Il m'a passé du levain qui a été fabriqué ce matin. Et il m'a même dit, tu peux le faire circuler, et tu peux même, les gens peuvent le goûter s'ils veulent. Hein? Donc si vous voulez, vous pouvez goûter du levain. Ça, c'est du bon levain. Hein? Ça, c'est pas du levain des pharisiens. Hein? Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez ouvrir le bocal, faire circuler, sentir, goûter. Voilà. Et c'est safe. Hein? Moi, c'est la première fois que j'ai vu du levain. Donc, tu peux passer à la suivante. Ils ont une grande machine. Hein. Alors, ça, voilà. Ça, c'est la. Non, tu veux juste en arrière, ouais. Voilà, donc, ça, c'est la boulangerie où travaille Teddy. C'est juste, tout près de la maison de la Bible. Donc, quand vous allez acheter votre pain, vous pouvez aller à la maison de la Bible chez Anne. Ou quand vous allez acheter à la maison de la Bible, hop, vous allez voir Teddy. Et donc, le levain, il est dans cette boulangerie. Ils le font dans une machine. Donc, c'est plusieurs dizaines de kilos de levain. Et ensuite, c'est mélangé à de la farine. On peut passer à la photo suivante. Voilà. Donc là, c'est la pâte qui dans laquelle le levain a été mélangé à de la farine. Alors, la première chose, moi, je ne savais pas qu'on pouvait être passionné par le levain. Hein, et en fait, en discutant avec Teddy, je me suis rendu compte que si, c'est possible. Il est vraiment... Voilà. Et donc, la boulangerie dans laquelle il travaille ne fait que du pain au levain. Alors, je fais un peu de pub. Ne fait que du pain au levain. Hein, parce que à l'époque de Jésus, on ne faisait que du pain avec du levain. Aujourd'hui, on a des levures, levures chimiques, etc. C'est vraiment deux techniques différentes. Et donc, voilà, Teddy, il connaît le levain sur le bout des doigts. On a discuté, on a pas mal échangé. J'ai déjà eu au téléphone cette semaine. Hein, je ne l'ai pas pris de côté pendant une heure ce matin pendant qu'il travaillait. Mais il y a trois choses dans tout ce qu'il m'a raconté sur le levain qui, pour moi, résonnent avec la manière, avec l'image que Jésus utilise. La première, c'est l'impact, les effets du levain sur la pâte. Pour comprendre, on va comparer avec ça. Ça, vous savez ce que c'est ? C'est du pain azim, donc c'est du pain sans levure ou sans levain. C'est le pain qu'on utilise pour la Sainte Cène. On peut aussi utiliser du pain avec levain, c'est pas interdit. Et vous voyez que la forme est très différente. Donc le levain, c'est ce que Jésus dit aussi, hein, le royaume, c'est ce qui fait lever la pâte. Et c'est aussi, ça change fondamentalement le goût. Hein, le goût de ces petites galettes de pain sans levain, c'est pas... Voilà. C'est un peu pâteux comme ça. Hein. Le levain, ça donne au contraire... Voilà, ça donne le goût du pain, en fait. Le goût du pain vient du levain. Donc c'est une force, le levain, qui va avoir un impact considérable. La deuxième chose, c'est que le levain, il agit de manière lente, discrète, cachée. Et une fois qu'il est mélangé à la farine, on le voit plus, ça devient quelque chose de complètement uniforme. C'est une pâte unique. On ne peut pas dire, ah ben tiens, là, il y a un petit bout de levain qui reste. Non, c'est complètement mélangé. Il agit en profondeur, mais on ne le voit plus. Il est caché dans le reste de la pâte. Et enfin, la troisième chose, c'est que le levain facilite l'assimilation, facilite la digestion. À la différence du pain, par exemple, fait avec des levures. Teddy me disait... Je le cite, hein, ça permet d'accéder à tout le potentiel énergétique de l'aliment. C'est-à-dire que le corps digère beaucoup mieux lorsque le levain est utilisé. Alors, il m'a expliqué pourquoi des histoires de micro-organismes, etc. Mais là, ça dépasse mes compétences. Voilà. Donc, si on résume, le levain, c'est une force qui a un impact considérable sur le produit, sur le pain. Ça agit de manière cachée, lente et discrète. Et ça permet au corps. Lorsqu'on utilise du levain, le corps assimile davantage et digère mieux. Jésus compare le royaume de Dieu à du levain, un levain positif, un levain qui donne la vie en abondance, qui se développe, qui permet d'assimiler les vérités et de comprendre qui est Jésus. Et il existe le levain des pharisiens et des sadducéens, dont ici, dans le texte qu'on a lu, Jésus met en garde, à propos duquel Jésus met en garde, qu'il ne faut pas utiliser, pas absorber. On en vient à notre deuxième question. Que représente ce mauvais levain ? Ce levain qui va abîmer le goût du pain, qui va même rendre le pain immangeable. Le petit échange entre Jésus et les pharisiens et les sadducéens nous donne quelques indices. Alors il faut voir que les pharisiens et les sadducéens, c'était normalement deux groupes qui n'étaient pas d'accord entre eux. Ils étaient même plutôt en conflit. Mais là, ils ont trouvé un ennemi commun, Jésus, et donc ils se mettent ensemble pour lui tendre un piège. Et Jésus, de son côté, il souligne que ses interlocuteurs appartiennent à une génération mauvaise et infidèle, car ils ne savent pas interpréter les signes du temps. Ils ne comprennent pas, en fait, qui est Jésus. Jésus est devant eux et ils sont aveugles. Ils sont aveugles devant la personne de Jésus, devant ce qu'il enseigne, devant la manière dont il agit, dont il se comporte. Quelques versets auparavant, Jésus avait comparé les pharisiens à des aveugles qui guident des aveugles, en Matthieu 15, verset 14. Quand on voit la manière dont les disciples sont repris par Jésus aussi dans ce passage, on se dit que eux, bien sûr, ne sont pas opposés à Jésus, ce sont des disciples, ils le suivent, mais on a l'impression qu'ils ne comprennent pas forcément beaucoup mieux que les pharisiens. Et Jésus insiste sur leur manque de compréhension, sur leur petite foi, sur leur aveuglement. Raison de plus pour que les disciples fassent attention au levain des pharisiens et des sadducéens. L'enseignement des pharisiens, des sadducéens, conduit à l'incrédulité, à l'aveuglement à l'égard de la personne de Jésus. Et même si aujourd'hui, il n'y a plus de pharisiens, il n'y a plus de sadducéens, effectivement, ce danger existe toujours et il pourrait nous atteindre. Alors comment ? Ça revient à poser la question de ce que c'est l'enseignement. Jésus met en garde contre l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Quand quand on parle de suivre un enseignement, à quoi ça vous fait penser spontanément? Comment est-ce qu'on peut recevoir un enseignement? Qu'est-ce que...
Je n'entends pas.
On écoute, on peut écouter un podcast par exemple, ou une prédication. Comment est-ce qu'on reçoit un enseignement encore? La lecture, on va lire un livre, lire des articles. Le Saint-Esprit nous enseignera, ouais. Alors, mais on va... Bonne réponse. Écouter une prédication. Suivre une formation. Regarder des vidéos. Hein, aujourd'hui, il y a beaucoup de... Pour ceux qui ont des enfants entre 10 et 20 ans, je pense que vous savez qu'il y a beaucoup de temps passé à regarder des vidéos de youtubeurs, etc., qui expliquent des choses bébêtes, hein, mais vraiment il y a de l'information qui transite. Oui, tout ça relève de l'enseignement. On reçoit une information qui vient de l'extérieur. On est dans une situation d'apprentissage, on réfléchit, notre raison est mobilisée. Mais je pense que l'enseignement, la notion d'enseignement, elle est plus large que ça. On voit plus loin dans l'évangile de Matthieu, toujours, que Jésus va à nouveau rencontrer les pharisiens. Cette fois, c'est à Jérusalem, quelques jours avant sa crucifixion. Et on va lire ce que dit Jésus dans le chapitre 23 de Matthieu. On va l'afficher. Ok. Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit « Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. » Alors attention, le contexte est différent, hein. Là, on pourrait se dire, il dit deux choses qui ne collent pas, là. Donc, gardez-vous de l'enseignement, et puis ensuite suivez l'enseignement. On ne parle pas tout à fait de la même chose. Ici, Jésus dit, s'ils enseignent la loi de Moïse, c'est très bien, suivez la loi de Moïse. Mais on voit que Jésus là met en garde sur le fait que l'attitude, le comportement des pharisiens ne colle pas avec ce qu'ils enseignent. Et donc, l'enseignement, c'est certes recevoir des informations en lisant, en écoutant, mais c'est aussi observer, quand on observe les actes, quand on observe les comportements. D'une certaine manière, ça nous enseigne. On voit des gens agir à notre travail, on voit la manière dont ils réagissent dans telle ou telle situation, dans des situations de stress, etc. Tout ça, on l'observe, ça nous enseigne. Je pense qu'on peut aussi ajouter à tout ce qui va nous influencer, en plus des informations, en plus des comportements des autres, tout ce qui concerne, tout ce qui est du domaine des valeurs, des idées, les idées politiques, les idées économiques. En somme, tout ce qu'on va appeler la vision du monde. Et tout ça, les informations, les comportements, les idées, les valeurs, c'est comme un levain. Et ça, ce levain, il nous arrive par plein de canaux différents. Les livres, les cours, les podcasts, on l'a déjà dit, mais... Voilà, le fait d'observer les gens, de discuter avec eux, les conversations qu'on va avoir. On a parlé des réseaux sociaux déjà dans la présidence avec Jean-Pierre, mais j'ai cette statistique que les Français passent en moyenne 1h45 par jour sur les réseaux sociaux. Les films, les séries, 4h23 par jour. J'ai un peu eu du mal à croire cette stat quand même, mais 4h23 par jour en moyenne en 2024. Donc je pense qu'il y a, en partie les réseaux sociaux et les vidéos qui se chevauchent, parce que sinon, ça fait vraiment beaucoup. Mais voilà, le fait est qu'on vit dans une société qui est énormément sur les écrans et qui reçoit, en fait, beaucoup d'éléments, d'informations. Les médias, la publicité, tout ça a de l'influence sur nous. Et il y a même un métier qui a émergé ces quelques années, depuis quelques années, hein, c'est le métier d'influenceur, dont l'objectif même, c'est de nous influencer. Ouais, j'ai l'impression que le retour, il y a un petit souci, ouais. Non, c'est le retour, là. Ouais, merci. Alors, avec une définition un peu plus large de l'enseignement, hein, c'est pas juste lire des livres, écouter, mais c'est aussi tout ce qu'on reçoit. En fait, on est entouré de levain, d'une certaine manière. Quel pourrait être le levain des pharisiens et des sadducéens pour nous aujourd'hui ? Alors je pense que dans l'Église déjà, pour les disciples de Jésus que nous sommes, ce mauvais levain, c'est tout ce qui va nous détourner de la personne de Jésus, telle qu'elle a été révélée, elle a été révélée puis ensuite transmise à travers la Bible. Tout ce qui va nous conduire à une forme d'aveuglement vis-à-vis de Jésus. Tout ce qu'on va ajouter au message de l'Évangile, ou tout ce qu'on va enlever du message de l'Évangile, ou le fait de tordre le message de l'Évangile. Quand on ajoute au message de l'Évangile, souvent c'est pour arriver vers ce qu'on appelle le légalisme. Et Jésus, en Matthieu 23, justement, à la suite de cette introduction, où il dit toute une série de reproches qui sont faits aux pharisiens. Malheur à vous, maîtres de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ajoutez des règles en disant que si les personnes respectent ces règles, Dieu va être davantage favorable, Dieu va davantage aimer. Toutes les règles qu'on s'ajoute en pensant que Dieu va nous aimer davantage, c'est un mensonge. On peut aussi amoindrir l'Évangile. Et là, c'est plutôt ce qu'on va appeler le libéralisme, c'est-à-dire dire que la raison humaine va se placer en juge par rapport à la Bible et dire que, ah non, mais les miracles, ça, c'est pas possible. Et puis cette parole de Jésus, en fait, c'est certainement pas lui qui l'a dite, ça a été ajouté après. Et donc on va faire le tri dans la Bible pour dire ce qu'on peut croire, ce qu'on peut pas croire, ce qui est, etc. Déformer l'Évangile. Par exemple, l'idée séduisante mais fausse que les chrétiens fidèles doivent toujours être en bonne santé, jamais tomber malade et être riches, ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Ou l'idée que Dieu demande aux chrétiens de prendre le pouvoir politique. Si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, c'est une tendance assez forte chez certains chrétiens, évangéliques notamment. Tout ça, ce sont des erreurs, des hérésies, si on utilise un terme technique. Et la difficulté, c'est que ce mauvais levain, il n'y a pas un signe rouge qui dit « Attention, vous allez lire un mauvais enseignement. Attention, vous allez lire, là on va déformer le texte de l'Évangile. » Donc ce n'est pas toujours simple de savoir quand on est en présence de bon levain, quand on est en présence de mauvais levain. Ça c'était dans l'Église, mais plus largement dans la société dans laquelle nous vivons. Une société qui en Occident a mis Dieu de côté, qui met en avant d'autres valeurs, par exemple la loi sur l'euthanasie qui est de nouveau qui va être rediscutée, et où en fait on va mettre aussi la valeur de la vie en fonction de l'utilité sociale de la personne. À partir d'un certain moment, ça n'a plus de sens d'être en vie. Et on voit bien vers où ça peut mener. Ou bien la loi du plus fort. Si je peux t'obliger à faire quelque chose, je le fais. Je veux conquérir un pays, je conquiers ce pays. Ou l'idée que la fin justifie les moyens. Ça, c'est très facile de tomber dans ce piège-là. Toutes ces valeurs-là sont très présentes dans notre société, mais en même temps, dans notre société, on observe aussi des élans de solidarité, un désir de justice, une aspiration à l'amour. Donc c'est mélangé. Et je pense que la solution, ce n'est pas de se couper de notre société, de vivre dans une petite bulle chrétienne où on est sûr qu'on n'aura que du bon levain. Non, il faut qu'on accepte aussi, en tant que chrétien adulte, mûr, de vivre dans cette société et d'exercer notre discernement. Dans certains cas, c'est facile de savoir que c'est du mauvais levain. Et dans ce cas, on est dans ce que la Bible appelle le péché. Je pense par exemple à la pornographie, qui est banalisé, qui est même parfois valorisé, et qui pourtant est agi comme un mauvais levain dans le cœur, qui fait des dégâts considérables dans la société et aussi dans l'Église. Dans d'autres cas, c'est beaucoup moins évident. Il y a des mouvements, je pense par exemple au mouvement féministe. Dans le mouvement féministe, il y a des idées, je pense que Jésus aurait pu les prononcer, mais en même temps, il y a aussi d'autres idées qui sont très éloignées de l'enseignement de l'Évangile. Et donc, c'est pas toujours simple de faire le tri. Et ça nous amène à la troisième question. Comment, dans nos vies, essayer de nous tenir éloignés du levain des pharisiens, des sadducéens, de nous nourrir du bon levain? Comment est-ce que cette mise en garde de Jésus peut nous toucher aujourd'hui. Et je vous propose trois actions, trois verbes, trois étapes. C'est pas une formule magique du tout, mais c'est juste un encouragement, une exhortation. À, dans un premier temps déjà, prendre conscience. Prendre conscience que chaque jour, chaque instant, j'absorbe du levain. Là, aujourd'hui, ce matin, vous êtes en train de manger du levain, d'une certaine manière, à travers ce que Jean-Pierre a partagé, à travers les prières des uns et des autres, à travers les chants, les cantiques qu'on a chantés, à travers ce que je suis en train de dire. Je suis influencé, ça a de l'effet dans ma vie, ça peut être discret, ça peut mettre du temps, mais l'effet est bien réel, il est considérable. Donc déjà, juste prendre conscience que ce que je regarde, ce que j'écoute, ce que je lis, ça a un effet sur moi. Déjà, ça, je pense, c'est la première des choses. Se redire ça. Ouais, c'est pas anodin, d'une certaine manière. Deuxième, c'est apprendre à discerner. Apprendre à discerner et à renoncer au mauvais levain, à ce levain qui va abîmer le goût du pain. Aiguiser le discernement, c'est quelque chose qui est complexe, pour lequel nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et pour lequel nous avons besoin aussi de l'aide des frères et des sœurs. Dieu nous a placés aussi dans une communauté, dans une église, pour que nous puissions nous aider les uns les autres. Je reparle du sujet de la pornographie. C'est très compliqué de sortir. Il y a une dimension addictive qui fait que le meilleur moyen de s'en détacher, de mettre ce mauvais levain de côté, c'est souvent d'aller en parler avec quelqu'un de confiance. Et donc, voilà. Ici, dans l'église, il y a Jean-O, le pasteur, il y a les anciens, il est responsable de groupe de jeunes. Ça peut être n'importe qui, en qui vous avez confiance. Je donne l'exemple de la pornographie parce que c'est quelque chose qui est présent, très répandu dans la société, et donc ça touche aussi nos églises. Mais il y a d'autres situations, bien sûr. Apprendre à discerner, apprendre à renoncer au mauvais levain, avec l'aide de Dieu, avec l'aide des frères et sœurs. Et enfin, dernière exhortation, nourrir le bon levain. Quand j'ai discuté avec Teddy, il y a une phrase qui m'a vraiment beaucoup étonné. Il m'a dit « Le levain, c'est éternel ». Alors en fait, ce qu'il voulait dire avec cette formule, c'est que le levain, il peut vivre des dizaines, des centaines, voire des milliers d'années. Le bocal, là, si vous voulez, dans 1000 ans, en fait, on pourra toujours, avec ce levain-là, faire du pain. Mais il y a une condition. Il y a une condition. Chaque jour, le levain doit être rafraîchi. Chaque jour, le levain doit être rafraîchi. Il faut en prendre soin. Il faut l'activer. Sinon, si on ne le fait pas, en fait, le levain, il perd ses qualités. Et un jour, il meurt. Parce qu'en fait, il y a des organismes vivants. Donc là, maintenant que je peux vous le dire, vous avez tous goûté, là. Il y a des petites bébêtes. Il y a des petites bébêtes. Et ce levain-là, si on en prend soin... Non, c'est safe, je vous ai dit, c'est safe. Ce que m'a dit Teddy, c'est ce levain-là, quand on en prend soin, en fait, il s'affine et il devient meilleur. Et il a dit, quand on mange du pain avec un levain qui a 50 ans, par exemple, donc qui a été pendant 50 ans travaillé par les boulangers, transmis, etc., il a dit, mais c'est extraordinaire. C'est le meilleur pain qu'on peut manger. Nourrir le bon levain. Claude a donné, je pense, une des réponses tout à l'heure pour que faire prospérer ce bon levain, c'est accueillir le Saint-Esprit dans nos vies pleinement, lui laisser le champ libre. Et le Saint-Esprit agit en nous, il nous aide à assimiler, là on retrouve l'image du levain qui aide à digérer, je pense que le Saint-Esprit nous aide à assimiler, à comprendre les vérités bibliques. Il nous transforme, il nous fait grandir, il fait lever notre pâte intérieure d'une certaine manière. Ce n'est pas des exhortations très, très originales, on revient un peu toujours à la même chose. La vie du Saint-Esprit en nous, la Bible, la méditation de la parole qui agit en profondeur, mais de manière cachée. Peut-être que vous étiez là lors de la première, du premier dimanche où notre pasteur Jean-Haut a proposé un peu un défi pour l'Église, pour ceux qui le souhaitent, d'apprendre un verset par cœur chaque semaine de l'année, 52 versets. Eh bien, je pense que voilà, cette répétition, cet apprentissage peut aussi faire partie des éléments où la parole entre en nous et agit en profondeur. Donc, si vous voulez rejoindre le groupe, voilà, contactez Jean ou après le culte. Une manière de prendre soin du levain, du bon levain, c'est aussi la vie dans la communauté. On peut observer des frères, des sœurs, parce que effectivement, dans l'observation du comportement, alors on est tous imparfaits, donc il faut aussi pas mettre les personnes sur un piédestal, hein, ça c'est important, mais on peut aussi par observer des frères plus mûrs et des sœurs et se dire ça c'est peut-être une manière de vivre la foi vers laquelle je voudrais m'orienter. Mettre en avant ses dons, mettre en œuvre ses dons, permet aussi de nourrir ce bon levain. Et enfin, dernier exemple auquel on peut aussi penser et dont on peut se saisir, ce sont des temps de formation un peu plus organisés, un peu plus formels, qui peuvent nous aider à grandir dans la foi, dans la vie de disciples. Et cet après-midi, ce sera redit lors des annonces, il y a un forum d'église de 14h à 16h. Et lors de ce forum, il y aura un atelier qui sera animé par Élisée et par moi sur ce sujet-là, de la formation. Quels sont les sujets qui vous intéressent? Quels sont les sujets qui vous travaillent? Quelles sont les manières dont vous aimeriez peut-être grandir tous ensemble dans l'Église? Donc venez cet après-midi. Et une première opportunité, là aussi ce sera redit lors des annonces, c'est samedi prochain, ici à l'Église, la journée du 1er février. Prendre conscience que nous sommes influencés, exercer notre discernement et rejeter le mauvais levain, et par contre nourrir le bon levain pour qu'il s'affine, pour que le goût de notre pain soit meilleur chaque jour. J'aimerais conclure par la prière. Père, pardon pour toutes les fois où j'ai accepté les valeurs de ce monde qui pourtant te tournent le dos, et ceci même sans m'en rendre compte. Pardon pour toutes les fois où ce mauvais levain est entré dans ma vie et a pu s'y développer. J'ai pensé à mon bien-être sans penser à l'effet de mes actions sur l'environnement. J'ai considéré que la pauvreté et la précarité étaient inévitables. Ou bien c'est la valeur monétaire, le succès qui a présidé à mon estimation de ce qui est bien ou mal. Pardon, Père, de n'avoir pas veillé à mes comportements et à mes valeurs, d'avoir suivi l'exemple des autres au lieu de suivre celui de ton Fils. J'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin que le levain du royaume, ce bon levain, soit rafraîchi et renouvelé dans ma vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint et rends-moi attentif à sa conduite. Aide-moi à méditer ta parole et à réfléchir à la manière dont tu t'es comporté avec nous. Comble-moi de sagesse, de discernement, de compassion, de douceur. Remplis-moi d'humilité et montre-moi mes erreurs en pensée et en acte. Merci pour ton pardon et pour la possibilité de progresser. Amen. Alors, on va juste remettre la dernière photo, s'il te plaît, Samuel. Comme je vous ai peut-être mis l'eau à la bouche là, avec toutes ces histoires de pain, j'ai acheté quand même 4 baguettes au levain ce matin. Et donc, à la fin du culte, voilà, vous pourrez goûter ce bon pain au levain de Teddy.